série, bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un cereal lover
ou un cereal eaters.
Bonjour les sérivores, et bien aujourd'hui nous allons vous parler d'une série vraiment culte de la télévision et que tous les auditeurs assez anciens connaissent et même plus jeunes, parce qu'aujourd'hui on a quelqu'un qui est à la technique qui s'appelle Vincent, bonjour.
Bonjour.
Et qui m'a dit qu'il connaissait cette série, La Quatrième Dimension, alias The Twilight Zone.
C'est ça.
Et tu, justement, parce que les gens de ta génération, en général, connaissent plus la série, les séries qui ont été faites après, un peu plus tard, parce que, comme on va le voir dans le déroulé de l'émission, il y a eu pas mal de remakes, on pourrait dire. Maintenant, c'est à la mode et ça se fait beaucoup. Mais c'est une série télé américaine, comme je disais, en noir et blanc à l'époque, au départ, puisque c'est une série de science-fiction créée par Rod Serling. Cette série est considérée justement comme l'un des plus beaux exemples de la créativité de la télévision américaine, toujours célébrée des décennies après sa création, comme tu peux l'en attester puisque tu l'as vu. Et cette série a connu de nouvelles adaptations, comme je disais, et les séries Reboot et même des films en déclinaison, comme on pourra le voir après. Tu peux nous donner les années de la série ?
Alors, c'est la première, il me semble que c'est 59-64 à peu près.
C'est tout à fait ça. Et tu le classerais comme ?
Science-fiction.
Oui, anthologie, science-fiction, bien sûr, fantastique, parce qu'on part aussi un petit peu dans le fantastique. Et c'est ça qui est l'attrait de cette série, c'est qu'on va balayer, comme on va pouvoir le voir, pas mal de spectres. La série est composée de 138 épisodes de 25 minutes et 18 épisodes de 50 minutes pour la saison 4. Bon, le schéma de 25 minutes était très à la mode à cette époque-là. On passait ça souvent avant les informations. Maintenant, il y a toutes les publicités, tout le tralala qu'on a autour. Mais à l'époque, voilà, on meublait, entre guillemets, le début de la soirée ou l'avant-information par ce genre de série. Alors, cette série, donc, comme je le disais, se présente comme une anthologie d'histoires fantastiques de l'étrange, énigmatique, dont le but était, comme le voulait son créateur Rod Serling, c'était de frapper le téléspectateur, de le choquer, et souvent par une chute inattendue, surprenante et singulière de chacune de ces histoires. Chaque épisode est intéressant puisqu'il est indépendant et la série ne compte aucun personnage récurrent, sauf le narrateur. Donc la fameuse voix qu'on entend et qui est un peu flippante. D'ailleurs, c'est ce que je crois que tu m'as dit, c'est un de tes souvenirs aussi, que ça faisait un peu peur.
Ouais, c'est ça. Et ça me fait aussi, en plus de faire un petit peu peur quand même et de bien mettre dans l'ambiance, ça fait aussi vachement Hitchcockien quand même.
Tout à fait, c'est vraiment ces univers un petit peu noirs, un peu filtrés. Déjà, rien qu'avec le générique, on est dedans, quoi. On rentre justement dans la quatrième dimension. Rod Serling apparaîtra lui-même dans le champ à partir de la deuxième saison et la plupart des épisodes présentent un test plutôt pessimiste de ce que va devenir la société future et qu'on peut assimiler à une critique de la société américaine de l'époque, puisqu'il y a tout un tas de thèmes qui sont évoqués, qui sont maintenant malheureusement encore d'actualité de nos jours. Les épisodes, ils cherchaient aussi à faire naître une réflexion chez le spectateur, en particulier sur la relativité des références, mais aussi, elle était là pour le distraire, mais on n'était pas juste un consommateur. Derrière, ça nous entraînait à avoir une petite réflexion sur le monde qui nous entoure. Alors chaque épisode va créer un climat particulier pour préparer le spectateur à une surprise au moment de l'épilogue. C'est vraiment le cachet de la quatrième dimension et des reboots qu'il y aura après. Il y a toujours une petite morale et ça, les Américains sont toujours très bons avec la morale. Et bien, ce que je te propose, c'est de nous passer le générique si connu de cette émission. Thank you. donc après ce générique bien flippant, qui a d'ailleurs été repris par pas mal de groupes, même ou pour des publicités, c'est vraiment, on entend ce générique, hein, on se dit, c'est la quatrième dimension. Alors, les héros principaux et les acteurs qui les interprètent, eh bien, comme je disais tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas vraiment de héros, puisqu'il n'y a que le narrateur, Rod Serling, et en français, c'est la voix de Guy Chapelier, qui nous introduit l'émission et la petite conclusion derrière, mais... les acteurs étaient peu nombreux dans chaque épisode, le plus souvent entre 2 et 7. Et l'histoire qui a comporté le plus d'interprètes, eh bien, c'est 15. Donc, c'est pas phénoménal, hein, quand on voit le nombre de personnes qui apparaissent, ne serait-ce que pour faire les seconds rôles ou les figurants. Et là, 15... Alors, 2 épisodes n'ont fait apparaître même qu'un seul acteur à l'écran, la fameuse Agnès Moorehead... un épisode qui s'appelait Les Envahisseurs, hein, rien à voir avec la série Les Envahisseurs. Et Agnès Moorehead, c'est la grand-mère dans Ma sorcière bien-aimée. Eh bien, c'est la mère de la sorcière. Ensuite, il y a eu Mickey Rooney, un vieil acteur qu'on a pu voir dans pas mal de films hollywoodiens, dans La dernière nuit d'un jockey de la saison 5, de l'épisode 5. Voilà, il y a 2 épisodes où il y a carrément un seul acteur. Donc... avec 25 minutes, ça tient bien, mais j'imagine passer à 50 minutes ou voir un film avec un seul, c'est très rare cet exercice-là et c'est un peu casse-gueule.
Et d'ailleurs, c'est peut-être cet épisode-là, La dernière nuit d'un jockey, je ne me souviens plus du nom d'un des épisodes qui m'avait pas mal marqué, où ça se passe après une apocalypse, il me semble, où c'est le dernier homme, basiquement, sur Terre, et il va chercher le temps qui lui reste à vivre, à lire.
Oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a toujours derrière... cette petite pensée, et puis bon, on est au temps de la guerre froide, donc il y a toujours cette peur du nucléaire, on sort d'Hiroshima, de toutes ces cochonneries qui sont arrivées pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a encore ce traumatisme de la guerre. Alors, plusieurs acteurs déjà connus dans le cinéma américain ont participé à la série, et aussi de nombreux sont apparus et qui devinrent par la suite des vedettes d'une série télé à succès. Par exemple... on va retrouver Buster Keaton, qui était, je sais pas, tu connais Buster Keaton ?
De nom, et même j'avais...
Voilà, c'est une vedette du noir et blanc, mais surtout du muet, donc qui est justement la particularité de jouer un épisode qui avait été tourné comme un film muet, et donc Buster Keaton... qui était donc star de cet exercice, était tout à fait dans le rôle. En plus, il a un visage très lugubre, très peu expressif, donc ça lui allait très bien. On retrouve Rod Taylor, qu'on a pu voir entre autres dans Le dernier train du Katanga, dans des westerns. Lui, c'était une grosse vedette des années 60. Lee Marvin, donc, qu'on a pu voir dans Canicule, Croix de fer, et dans tout un tas de westerns. Mickey Rooney, qui était un enfant star d'Hollywood et qu'on a pu voir après dans pas mal de films. Robert Redford, bon, hein, on ne va pas présenter Robert Redford, par exemple, c'est L'Arnaque. On a aussi Dennis Hopper, celui qui a fait Easy Rider, entre autres. On l'a pu le voir même dans un des massacres à la tronçonneuse. Tout à fait un autre registre, puis tout un tas de films. Charles Bronson, qu'on a pu voir dans Soleil Rouge, Le Justicier, Le Bison Blanc. Voilà, pas mal de films d'action et des westerns aussi. Lee Van Cleef, la brute du bon, la brute et le truand. Hein. Burgess Meredith, ça vous parle peut-être pas beaucoup. Ben, si je vous dis l'entraîneur de Rocky, tout de suite, ça parle mieux. Aussi, on a Ida Lupino. Elle joue le rôle d'une star déchue dans la série. Et en fait, c'était elle aussi une star du cinéma, du début du cinéma hollywoodien. Et elle joue vraiment un rôle qui lui va très bien. Agnès Moorehead, on en a parlé tout à l'heure. Et elle retrouve aussi bien 2 personnes qui étaient avec elle dans Ma sorcière bien-aimée. C'est Elizabeth Montgomery, la sorcière, elle-même. Et puis Dick York, qui jouait Jean-Pierre, un des 2 maris. Il y a eu Dick York et Dick Sargent. Et donc, ils ont joué avant de jouer dans Ma sorcière bien-aimée. Mais ils se sont retrouvés ensemble dans cette série. Patrick McNee, ça te dit quelque chose ? Chapeau melon et bottes de cuir, bien sûr. William Shatner, Leonard Nimoy... et George Takei,
Star Trek.
Ouais. Martin Landau, c'est Cosmos 1999. Roddy McDowell, ça parle peut-être pas à beaucoup de gens, mais c'est dans La planète des singes, bah, c'est lui qui joue le chimpanzé sympathique. Ensuite, Ross Martin. Alors, Ross Martin, c'est les mystères de l'Ouest. C'est l'homme qui se déguise tout le temps. Il y a James West et Artemus Gordon. Ben, c'est Ross Martin. On peut le voir aussi dans cette série. Okay. Peter Falk, Monsieur Colombo. Telly Savalas, l'homme aux sucettes, le policier Kojak. Mais aussi, on l'a pu le voir dans Les Douze Salopards, dans plein de séries comme ça.
C'est dans Les Douze Salopards que je l'ai
ouais, vu. Ouais, ouais, où il joue un espèce de taré. Et entre autres, hein, il a joué plein de choses. On retrouve même Richie Cunningham, alias Ron Howard de Happy Days, qui est devenu le grand réalisateur qu'on connaît. Jane Cooper, Des Feux de l'amour. Alors, vraiment, vous voyez, des acteurs qu'on trouve un petit peu de n'importe où. Orson Bean, qu'on peut voir dans Dr. Quinn, femme médecin, et Desperate Housewife. Donc, des acteurs qui ont été sur la durée, parce que quand on voit l'année de la série, et puis bah, les gens que je cite ont une carrière plus ou moins récente et plus ou moins fulgurante. Eh bien, nous allons passer aux anecdotes de la série. Donc, bah, dans l'accroche originale, The Twilight Zone, la quatrième dimension, est qualifiée de fifth dimension, donc la cinquième dimension, littéralement. Et en effet, selon la théorie de la relativité qui était développée par Monsieur Einstein, la quatrième dimension ne désigne que le temps. Serling pensait avoir inventé l'expression Twilight Zone, le titre original, tout seul. Mais quand la série a été diffusée, il a appris que c'était l'expression utilisée par les pilotes de l'US Air Force pour désigner le moment entre le jour et la nuit où la ligne d'horizon est difficile à discerner, comme le terme des Gremlins, qui a été inventé par les pilotes de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient en poste en Inde pour désigner les multitudes de petites pannes bizarres, comme nous, ça peut nous arriver ici à la technique, et qu'ils n'arrivaient pas à les réparer et ils subissaient les avions. Ça ne faisait pas de victime, mais ça détraquait un peu tous les systèmes de fonctionnement. Et donc, le nom vient de la marque de bière, Fremlins, donc, ouais, dont le F a été remplacé juste par le G des frères Grimm. Et finalement, pour la nouvelle série diffusée par la 5 en 86, c'est le titre de la cinquième dimension qui était plus proche de ce que signifie vraiment The Twilight Zone qui a été retenu. Donc, vous voyez, hein, y a un long cheminement avant d'arriver à ce titre. Tu peux nous donner une autre petite anecdote ?
Oui, alors les textes de présentation de chaque épisode furent multiples, tant dans la version française par Guy Chapelier qu'en VO, donc de Rod Sterling.
Alors, cette série fut tournée entièrement en noir et blanc dans un environnement plutôt contemporain. Même si quelques épisodes ramènent le spectateur à l'époque du western ou le transportent dans le futur, les histoires utilisent peu d'effets spéciaux. Peu de scènes à grand spectacle, peu de violence crue et pas de sexe. Donc c'est vraiment l'ambiance de l'époque. Et puis c'est pas mal parce qu'en fait, on jouait beaucoup sur le jeu d'acteur et pas sur les effets spéciaux comme on a tendance à faire un petit peu maintenant dans certaines séries. À cette époque, justement, les séries comptaient beaucoup d'épisodes par saison. La quatrième dimension avait des saisons à plus de 35 épisodes. À part la saison 4 qui n'en a que 18... Ce qui est déjà relativement pas mal, parce qu'il faisait 50 minutes au lieu de 25 minutes, comme je disais tout à l'heure, pour les autres. Et avec la saison 3, qui culmine à 37 épisodes quand même, Rod Serling, à lui tout seul, en a écrit quand même 92. Donc il était vraiment au four et au moulin, comme on peut dire. Tu peux nous parler encore d'une autre anecdote ?
Oui, alors pendant l'introduction, au début de chaque épisode, on voit souvent Rod Serling avec une cigarette. C'était l'époque où les séries avaient des sponsors et servaient de porte-parole pour les marques, notamment les cigarettes. Et donc, un de ses sponsors, c'était The American Tobacco Company, qui avait insisté pour qu'on voit tout le temps Serling avec une clope. Quoi.
Un truc impensable maintenant.
C'est ça.
Alors, Richard Matheson, qui est un grand écrivain, qui a écrit « Je suis une légende », a écrit plusieurs épisodes de la série. Je suis une légende qui, après, a été adaptée deux fois au cinéma. Et donc, vous voyez qu'il y a des pointures qui sont aussi attelées à l'écriture des scénarios.
Dans le tout premier épisode de la série, Solitude, la ville déserte, l'homme déambule dans les mêmes décors utilisés pour Hill Valley, donc la ville de Marty McFly dans Retour vers le futur. On voit même bien le bâtiment à colonnes qui n'avait pas encore d'horloge à cette époque-là.
Avant qu'il soit abîmé par le doc et sa folle voiture. Alors, les effets spéciaux, justement, ont été utilisés sobrement et intelligemment, comme on disait tout à l'heure. Par exemple, dans L'Homme qui hurle, la transformation du personnage se fait en jouant avec son passage derrière des piliers. Dans Les Envahisseurs, les petits scaphandres sont des marionnettes à main en mousse et en latex, hein, carrément. Les accessoiristes glissaient leurs doigts à l'intérieur des jambes et leurs bras étaient recouverts de velours noir et disparaissaient dans les recoins du décor. Et même certains décors et accessoires, comme le mythique Flying Saucer, ont été utilisés plusieurs fois pour faire des économies. Hein. Donc à l'époque, il n'y avait pas des gros moyens, mais on arrivait à se débrouiller.
Et dans Souvenir d'enfance, un homme s'arrête à une station-service détenu d'après un panneau par un certain Ralph N. Nelson. Ralph W. L. Nelson était un des principaux producteurs de la série.
Hop, un petit peu de léchage, ça se faisait déjà à l'époque. Alors, dans Parasite, l'histoire d'un homme qui préfère la radio à la télé, les voix à la radio en VO ont été faites par Bob Crane, ou Bob Crane plutôt, qui sera plus tard le fameux colonel Hogan dans Papa Schultz. Donc Crane était à l'origine DJ et était surnommé l'homme aux mille voix, mais n'a pas été crédité au générique de l'épisode pour son premier travail à la télé. Donc il a utilisé son premier métier et à cette époque-là, il n'était pas encore acteur.
À quelques exceptions près, les acteurs incarnent l'Amérique des années 50. Costumes de bonne facture, tailleur de qualité, visage glabre, cheveux courts pour les hommes et bien attachés pour les femmes, manière courtoise. Toute l'attention est contenue dans l'histoire elle-même, son atmosphère, le rythme en mise en scène et l'utilisation de la musique. Et au niveau de la politique internationale, évidemment, vu l'époque, la guerre froide influence la vie des Américains et le risque de guerre nucléaire.
On le retrouve souvent dans cette série, ouais, le côté un peu sombre, la peur de l'apocalypse. Tu l'as cité tout à l'heure dans l'épisode où l'homme qui lisait un maximum. Voilà, il y a plein d'épisodes, oui. En plus, c'est vrai qu'on ne joue pas sur les caractères. Déjà, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais en plus, ils ne sont pas spécialement glamour comme on pourrait l'avoir dans certaines séries. Alors, La Quatrième Dimension est considérée comme étant l'une des meilleures séries de tous les temps. Elle apparaît à la quatrième place du classement du journal Le Temps et septième du classement établi par Rolling Stone, le fameux magazine, et figure même à la 12e place de celui réalisé par Empire. Certains épisodes traitent de l'exploration spatiale ou les extraterrestres dès la saison 1. Et au début de la série, en 1959, l'humain, bien sûr, n'a pas encore été envoyé dans l'espace. Donc c'était un peu à la Jules Verne, c'était de l'anticipation.
Et le scénariste principal est Rod Sterling lui-même. Son contrat avec CBS lui impose l'écriture de 80% des épisodes. Il écrira seulement 92 épisodes sur les 156 produits et ne respectera donc pas son contrat. Les autres épisodes des saisons 1 à 5 seront principalement écrits par Richard Matheson et Charles Beaumont.
Voilà, donc les contrats un peu lâches à l'époque. La narration du générique d'origine en anglais décrit la Twilight Zone en précisant qu'il s'agit, comme on dit tout à l'heure, à la frontière entre science et superstition de la dimension appelée par l'imagination. Ce terme désigne bien sûr la zone d'ombre des pilotes. Et donc là, c'est toujours ce qu'on disait, toujours cette zone d'ombre. On est entre la réalité, la fiction, le fantastique. On est vraiment dans un univers de science-fiction.
Rod Sterling, le créateur de la série, mais aussi producteur et scénariste et présentateur de chaque épisode, a fait à l'université des tests pour l'US Air Force, des trucs pas du tout dangereux, hein, comme tester de nouveaux parachutes en conditions réelles, et a combattu lors de la Seconde Guerre mondiale, et principalement au Japon, et était prof sur son temps perdu et est mort à l'âge de 50 ans.
Donc assez jeune. Et on comprend aussi qu'il a été traumatisé par la guerre, ayant servi au Japon, après ce qui s'est passé, on parlait d'Hiroshima, ça. Voilà, c'est des gens qui ont cette génération qui a été vraiment traumatisée et qui n'avait pas envie de revoir la guerre. Et puis finalement, malheureusement, il y a toujours des abrutis pour faire la guerre. Sterling voulait que Richard Hagen, un acteur de cette époque, qui avait une voix profonde et veloutée, soit le narrateur. Et quand Egan, par contrat, n'a pas pu le faire, c'est Sterling qui s'y est collé. Et malgré une timidité maladive et le scepticisme de la chaîne, donc il ne voyait pas prendre ce rôle-là, c'est devenu la figure emblématique finalement de la série. Le pilote avait pourtant eu Westbrook von Voorhis, une voix off professionnelle de la télé et du cinéma. Et on avait même envisagé Orson Welles, qui avait été approché, mais bon, qui, lui, demandait trop de pépettes. Alors, ils ont dit, non, on va faire maison. Hein. Bon, comme on a vu que les effets spéciaux étaient cheap, ils ne se sont pas amusés non plus à mettre tout l'argent dans un narrateur.
Serling se contenta de présenter en voix off les 35 premiers épisodes de la série. Toutefois, il apparaissait à la fin de chaque histoire pour annoncer l'épisode suivant. Dans le 36e et dernier épisode de la saison 1, Un monde à soi, Serling apparut en caméo et sa prestation enthousiasma tellement le public qu'il décida, dès le début de la seconde saison, d'apparaître au début et à la fin de chaque histoire avec sa voix off pendant les épisodes.
Donc pas mal pour un gars qui était timide finalement. Il a été adoubé carrément par le public, puisque le succès de la série, pour qu'on lui ait demandé de rester, et puis il s'est vraiment intégré dans sa série, non seulement par la production, l'écriture, mais aussi par son interprétation, et donc c'était un succès total. Alors, Sterling est mort en 1975. En conséquence, le film homonyme sorti en 1983 s'est fait sans lui, et le rôle du narrateur est assuré en voix off par Burgess Meredith, un habitué de la série, qu'on a pu le voir, hein, l'entraîneur de Rocky, c'est lui qui a repris la voix off.
Et Rod Serling avait pour coutume d'annoncer la fin d'un épisode, un bref résumé de l'épisode suivant, mais il ne le fit pas pour la totalité des épisodes. Dans la quatrième saison, des extraits de l'épisode suivant étaient aussi diffusés. Et en France, ces brefs résumés étaient inédits, mais ont été mis en VO sur chaque épisode dans les coffrets DVD.
Voilà, comme d'habitude, hein, les Français ont fait le travail à moitié. Maintenant, ça moins, mais à cette époque, c'est ce que je disais, on saucissonnait, on se permettait de ne pas passer les épisodes dans l'ordre fait. Là, ce n'était pas trop grave, puisque c'était des épisodes indépendants. Mais il y a des séries, des fois, on passait 18 épisodes, et hop, on passait après, par exemple, au 25e ou le 26e, où on ne passait pas dans l'ordre. Donc, ce qui était complètement aberrant, voire des séries qui étaient même carrément arrêtées avant la fin de la décision de la saison. Il n'y avait pas un gros respect du téléspectateur à l'époque. Alors, de février à septembre 65, les téléspectateurs français vont découvrir 12 épisodes de la quatrième dimension. Comme je disais, voilà l'exemple typique, ces épisodes sont amputés des introductions et des conclusions de Rod Serling. Ce qui est dommage, c'est ce qui est le principal intérêt, justement. Certains vont trouver la série géniale et d'autres considèrent que c'est une insulte au bon sens. La science-fiction dans ces années-là en France, fallait être vraiment un spécialiste. Ça ferait exactement le phénomène qu'il y a eu avec les mangas quand c'est arrivé. Il y a des gens qui sont complètement hermétiques et puis il a fallu du temps et puis maintenant ça rentre dans les mœurs. Les séries, maintenant, une série de science-fiction, on a eu l'X-Files, on en a plein. Maintenant, c'est un genre à part entière et totalement reconnu. Il faudra patienter donc jusqu'au 28 mars 84 pour redécouvrir la série en remplacement du prisonnier dans Temps X, l'émission avec les frères Bogdanov. Le doublage français des épisodes de 65 avait disparu et on a fait un nouveau doublage. Et donc les 66 épisodes ont été achetés. Le succès est tel que TF1 va racheter 40 épisodes supplémentaires. Et donc, la série connaîtra un succès et sera diffusée jusqu'en septembre 80X. C'est le moment où Temps X va s'arrêter. Une émission qui a fait énormément pour les séries télé et spécialement de science-fiction. Mais la chaîne va acheter ce qui reste des 138 épisodes de 26 minutes en laissant de côté seulement 18 épisodes de 50 minutes. Et la première chaîne va reprendre la diffusion des inédits. Donc devant le succès et de la demande, on s'est dit il y a un créneau à prendre et on a acheté un petit peu tout.
Du 3 octobre 87 jusqu'au 18 mai 91, rediffusion partielle mais en version originale sous-titrée. Et dans les années 90, dans l'émission continentale d'été, à partir du 4 juillet 94 sur FR3. Et rediffusion en 99 sur Série Club, la chaîne diffuse 17 des 18 épisodes de 50 minutes en version originale sous-titrée. La série est rediffusée depuis fin 2012 et encore dès septembre 2013.
Preuve que des générations, comme on dit, plusieurs générations ont pu découvrir l'original des séries. Parce que souvent, on découvre les reboots, les nouvelles générations, ou alors il faut vraiment chercher et apprécier. Alors que là, eh bien, ça a permis, au contraire, les reboots sont arrivés, mais la nouvelle série était là. Donc les gens qui étaient vraiment intéressés sont allés voir, et ce qui l'a fait devenir une série culte. Alors, côté distinction, il y a eu un Emmy Award en 60 de lauréat du meilleur scénariste pour Rod Serling. Le meilleur réalisateur avec le Golden Globe 60, c'est aussi pour lui. L'Hugo Awards, lauréat de meilleure présentation dramatique, c'est Rod Serling qui s'y est collé. Hein. Lauréat du meilleur scénariste pour Rod Serling avec un Emmy Award encore en 61. Meilleure présentation dramatique en 61 des Hugo Awards, et en 62. Donc vraiment, c'est une reconnaissance aussi de la profession, pas seulement des spectateurs. Et puis, il y a un gars qui s'appelle, en 83, qui s'appelle Spielberg, John Landis, Joe Dante et George Miller, hein, une bonne brochette de réalisateurs, en hommage, ils ont décidé de réaliser un film formé de 4 courts-métrages qui s'appellera « La quatrième dimension ». Je ne sais pas si tu as vu le film.
Alors non, je n'ai pas vu. Je connais seulement le gros accident qu'il y a eu pendant la production d'un de ces segments-là, qui a été dramatique et qui n'a pas aidé à la production du film.
Ouais, c'est vrai que ça avait été. Mais sinon, moi, j'avais bien aimé, justement, parce que ça reprenait vraiment l'esprit. Bon, là, avec plus d'effets spéciaux. Et il y avait même on a repris des anciens noirs et blancs qui ont été remis au goût du jour, entre guillemets. Ensuite, on a le droit à la cinquième dimension, la série télévisée de 85. Vu le succès du film et puis le fait que la série marchait bien. On a eu la quatrième dimension, L'Ultime Voyage, en 84, de Robert Markovitch, qui rend hommage aussi à la série en réalisant un téléfilm qui est composé, lui, de 2 histoires. On a Le Fantôme d'Halloween, Tower of Terror, en version originale. C'est un téléfilm qui a été produit par Disney en 1997 et qui reprend le scénario de l'attraction consacrée à la série. Et la fameuse tour infernale qu'on peut voir dans les parcs Disney. Aussi, il y a la 13e dimension, une série télévisée de 2002. Alors, on a The Twilight Zone, la 4e dimension, la série la plus récente de 2019, hein, comme quoi ça continue à bien marcher. Et puis la fameuse attraction donc, sur la série qui existe depuis 1994 dans les parcs Disney, l'attraction The Twilight Zone Tower of Terror, qui est considérée à ce jour comme une incontournable des parcs Disney dans la partie cinéma, comme Universal et compagnie, et Disney. Donc c'est là qu'on peut voir cette attraction. Donc ça permet à Twilight Zone d'être toujours présente.
En 1993, il y a la société américaine Midway, qui à l'époque fabriquait des billards électriques de l'époque, sort un flipper Twilight Zone. Le flipper contient une multitude de références directes à la série, comme l'autostoppeur, la porte de l'imagination, la poupée, Robbie le robot, et bien d'autres encore, tant dans le déroulement du jeu que sur les parties décoratives de l'appareil. Et la voix qu'on entend en cours de partie n'est pas celle de Rod Serling, décédé 18 ans avant la commercialisation du flipper, mais celle de Tim Kirtso.
Donc, vous voyez, c'est même rentré dans l'univers des jeux, et donc... Quoi de mieux maintenant de s'immerger avec un petit extrait de la série La quatrième dimension.
Voici l'introduction la plus brève et la plus frénétique d'un de nos personnages, Archibald Beechcroft. C'est un enfant du XXe siècle, un produit de l'explosion de la population, un des héritiers de la civilisation et du progrès. Voici de nouveau Monsieur Beechcroft. Nous entrons dans l'acte 2 de sa lutte quotidienne pour survivre. Et d'ici un moment, ce Don Quichotte des temps modernes va entamer sa quête, sa rébellion contre les temps modernes. Et pour ce faire, il va devoir utiliser certains procédés que l'on ne trouve que dans la quatrième dimension.
Alors, les plus et les originalités de la série. Moi, j'ai mis le format anthologie d'histoire. Moi, j'ai apprécié le fait que tu ne sois pas obligé de fader toute la série et de l'attendre. Si tu loupes un épisode, tu peux le rattraper après et tu n'es pas un petit peu handicapé, entre guillemets, par le fait. Alors, je ne sais pas pour toi comment tu avais perçu cette série.
Si, justement, je trouve que c'est un bon moyen justement de regarder un petit peu dans l'ordre qu'on veut sans trop se prendre la tête.
Le générique, moi j'ai mis mémorable avec cette musique qui nous fait rentrer dedans, flippante, il est vrai, ça a bien été fait parce que déjà, rien que d'ouvrir le poste et on entendait la quatrième dimension, on était déjà dans où on va aller. C'était un petit peu où ils vont nous emmener aujourd'hui. Et puis, j'ai mis un casting 3 étoiles avec des vedettes du petit écran et du cinéma passé et à venir. On en a parlé tout à l'heure. C'était la série en fait, qui a révélé pas mal de futurs bons acteurs et grands acteurs, et aussi bien du cinéma que de la télé. Et à l'époque où c'était pas évident de passer du cinéma à la télé ou de la télé au cinéma, bah quand on voit la carrière de certains, ça les a pas empêchés d'avoir une super carrière derrière. Je sais pas toi ce qui t'a marqué le plus dans cette série.
Bah un petit peu tout en soi. C'est vrai que le casting c'est quand même quelque chose de bien réalisé, avec peu de moyens et avec peu de personnes notamment, ils ont réussi quand même à faire quelque chose de bien.
Oui, en effet, parce qu'on a vu le fait de ne pas avoir beaucoup d'acteurs. Moi, je l'ai mis un peu aussi dans les mois de la série, mais j'ai mis des effets un peu kitsch des fois. Mais bon, il faut se remettre aussi dans le contexte. Et c'est vrai que le jeu d'acteur était beaucoup plus important. Ça les a obligés, justement, ces moyens ridicules, des fois, ont permis aussi de se baser plus sur les textes, sur le scénario, sur les réflexions. C'est pas que les effets spéciaux comme on peut avoir des fois dans certaines séries. On dit vraiment que le scénario, c'est mince comme une lame de rasoir, et c'est vraiment ça. Et puis moi, j'ai mis aussi des épisodes inégaux. Parce qu'il y a des épisodes, on n'accroche pas. Bon, c'est aussi peut-être un avantage. Mais moi, j'ai trouvé, il y avait certains épisodes, j'avais du mal à accrocher. Des fois, des thèmes qui revenaient un peu aussi. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une très bonne série d'anthologie que je ne pourrais que vous conseiller, et je pense Vincent aussi, à découvrir. Même si vous ne fadez pas toute la série, vous pouvez voir quelques épisodes, ça vous donnera un petit peu le ton de cette quatrième dimension. Alors, si vous avez aimé, bien sûr, la quatrième dimension de 1983, avec toute la bande de Joe Dante, Spielberg, Miller et compagnie qui ont mis ce film. La cinquième dimension dont on a parlé tout à l'heure, la série télévisée de 85. La quatrième dimension, L'Ultime Voyage, le fameux téléfilm de 94. Le fantôme d'Halloween, donc l'adaptation produite par Disney en 97. La treizième dimension, la série de 2002. Et puis The Twilight Zone, la quatrième dimension, la dernière série en date de 2019. Et puis dans le même style, Au-delà du réel, la série télé qui est pas mal, je sais pas tu... Si tu la connais aussi, celle-là ?
Celle-là, seulement de nom.
Voilà, et donc, c'est un peu dans le même trip. Hein. C'est, par contre, un peu plus d'effets spéciaux, mais on est un peu, c'est un peu la concurrente, on pourrait dire. Comme il y a eu pas mal de par exemple, Star Wars et Star Trek, ça se concurrence, et bien là, c'est un peu de la même veine. Et puis, X-Files, la série télé et les films, hein, bon, on est un petit peu dans cet univers un peu à la limite du paranormal. Et voilà. Les coups de cœur Cerivore. Alors, mon coup de cœur Cerivore, c'est une mini-série en 3 épisodes, une mini-série britannique de 2020 et qui s'appelle tout simplement Dracula. 3 épisodes d'environ 90 minutes créés par Stephen Moffat et Mark Gatiss. Ça se passe en 1896. Jonathan Harker, un notaire anglais, John Elfman, se rend donc en Transylvanie pour finaliser la vente d'un château par le comte Dracula, qui est joué par Claes Lang. Il achète un château en Angleterre. Il survit à sa rencontre avec celui que la légende décrit comme le mal incarné et commence un combat sur plusieurs générations entre le vampire et la famille Van Helsing. Dolly Wells, qui va jouer la sœur Agatha Van Helsing, et aussi son ancêtre, le docteur Zoe Van Helsing. Moi, j'ai trouvé cette série sympa. Je l'ai découvert récemment, il y a quelques semaines. Et en fait, ça remet un peu le mythe de Dracula. Donc, dans la première partie, on est vraiment dans le mythe traditionnel de Dracula. Et en fait... La dernière saison se passe dans le présent. Et on retrouve les traditionnels personnages qui avaient été créés. Mais là, on a un autre Dracula qui n'est pas forcément supérieur, comme on peut le voir dans toutes les autres séries, c'est lui. Et puis ça démystifie un peu avec les gousses d'ail, avec enfin tout le mythe autour. On peut voir qu'il y a des choses vraies qui sont restées de la traditionnelle. Et puis surtout le fait de la tradition, que les Van Helsing, eh bien, c'est des femmes. Le grand ennemi de Dracula, là-dedans, c'est deux femmes avec un pouvoir très important. Une nonne, mère supérieure pour l'ancêtre, et une docteure recherche biologique pour la nouvelle descendante. Donc, moi, je vous encourage à le voir. Si vous aimez les films de vampires, les séries de vampires, et aussi les romans un petit peu... Là, vous allez passer encore à une autre version de Dracula que j'ai trouvé assez sympathique. En plus, c'est pas trop long. Trois épisodes, 90 minutes, voilà, ça me permet de voir quelque chose de nouveau. Eh bien, quoi de mieux que de mettre le générique de la série ? Eh bien, fin de ce Sérivore numéro 107. Et c'était une première avec Vincent, puisque désormais, c'est lui qui est à la technique et qui va intervenir avec moi sur les séries, puisque c'est quelqu'un qui adore le ciné et les séries. On avait pu le voir dans Cinéphage comme invité. Maintenant, vous avez l'habitude de le voir sur les ondes de Radioactive, de l'entendre. Eh bien, merci Vincent pour ta participation.
De rien.
Et à bientôt pour un nouveau Cérivore. Bye bye.
À bientôt.
Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil jusqu'à la prochaine émission.
Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un céréal lover
ou un céréal eaters.